vacances mouvementées. C'était pendant les vacances d'été 2013. Ma famille et moi étions partis au Maroc, à El Khamis, dans le village berbère de mes parents. Ce jour-là, j'avais demandé à ma mère de me laisser dormir chez ma cousine Myriam, qui a 2 ans de plus que moi. Ma mère a accepté. On a mis du temps à aller chez elle. Il fallait marcher plusieurs kilomètres. Une fois arrivés là-bas, ma sœur Fatima et moi avons croisé leurs voisins. Ils étaient sympathiques. La maison de Myriam était magnifique. Il y avait 2 grandes cours avec des orangers tels des jardins royaux. Il y avait aussi un grand toit. Toute la maison était en terre. Khadija, la grande sœur de Myriam, était là avec leur plus petite sœur Ajar. Ma sœur passait son temps à martyriser la vache de la maison. À un moment, je me suis souvenue d'une phrase que mon père me dit à chaque fois que je vais loin de lui. Pas de bêtises. Et ça m'a tentée. Je voulais qu'on s'amuse un peu. Et donc, quelques minutes avant le coucher du soleil, alors qu'Ajar dormait, j'ai demandé à Khadija en berbère si nous pouvions monter sur le toit. Elle m'a répondu « Oui, mais juste si tu arrives à redescendre. Ne t'en fais pas, dis-je. Ce sera simple, j'arrive à tout », ajouta Fatima. Enfin, nous sommes montés sur le toit, Fatima, Khadija, Myriam et moi, avec une échelle. Je regardais le paysage. Il était fabuleux. Toutes les maisons avaient l'air proches. Je voyais un berger qui rentrait ses moutons, comme une longue file de flocons avançant à l'horizon. La plus belle vision était celle du soleil au loin se couchant lentement. Quand le soleil fit place à la lune, je descendus du toit par l'échelle. En me retournant, je vis sur le toit Fatima et Khadija. « C'est pas vrai, fille, je descends, Moby Dick !»« Mais j'y arrive pas !» dit Fatima. « Tu avais dit que c'était simple. J'ai pas fait exprès de dire ça !» Je n'étais pas en colère, mais hilar. Khadija avait une expression qui disait « Je vais me faire tuer par vos parents. » Au bout d'un moment, il faisait noir et Fatima n'était toujours pas descendue. Myriam avait une idée, prendre une corde pour l'attacher à Fatima et pour qu'elle puisse descendre enfin, comme si elle descendait d'une montagne. Alors Myriam et moi sommes partis chez les voisins et nous leur avons demandé une corde. « Pourquoi voulez-vous une corde ?» demanda la mère de maison tout en prenant une corde du puits. « Pour attacher Nabila, dit Myriam, la mettre en haut du toit et la pousser pour la tuer. » La femme rit, mais j'avais l'impression qu'elle avait des doutes. Avec la corde, nous courûmes à la maison et la surprise me frappa. Fatima était déjà descendue. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé à Khadija, elle me répondit. J'ai dit à Fatima que si elle descendait, elle aurait des bonbons. Et Khadija sortit de la maison pour acheter les bonbons. Après cette merveilleuse aventure, nous nous sommes endormis. Le lendemain, très tôt le matin, j'ouvris un œil et vis ma mère et ma tante qui parlaient à Khadija. Si ma mère était venue ici, c'est qu'elle ne me faisait absolument pas confiance. Dans leur conversation, j'entendis des mots comme « échelle »,« corde »,« toi », »,« Fatima ». Et ma mère riait. Elle n'était pas en colère, ce qui était bon signe. Puis, quelques minutes plus tard, maman et ma tante partirent. À midi, j'appelais mon père pour qu'il ne s'inquiète pas. À ce qu'il me dit, il connaissait déjà toute l'histoire. Lui non plus n'était pas en colère. Je l'entendais à sa voix qui était plutôt heureuse.
Elle s'appelle Dalel. C'est ma meilleure amie, même plus que ça. C'est ma moitié, ma sœur, une fille pour qui je serais prête à donner ma vie. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. C'était un vendredi d'été. Nous étions en plein mois de Ramadan et comme tous les jours, j'allais chez elle. Ce jour-là, mon téléphone était éteint. Quand je le rallumais, elle m'avait harcelé de messages et d'appels. Je me suis empressée d'aller chez elle. Quand j'arrivais, sa mère qui était comme la mienne me fit immédiatement entrer dans sa chambre. Dalel était en pleurs. Je ne savais absolument pas ce qui se passait. Elle pleurait et ne répondait pas quand je lui parlais. Sa mère m'a fait sortir de la chambre pour m'expliquer la situation. Du jour au lendemain, ça m'était tombé dessus. Elle était devenue muette, sans aucune raison, sans aucun traumatisme. Je connaissais toutes les parcelles de sa vie et s'il y avait un problème ou qu'elle n'était pas bien, c'était vers moi qu'elle se tournait. Et elle m'en parlait immédiatement. Et là, dans ma tête, ce fut comme un cataclysme. Et je me posais plein de questions. Je me demandais si je pourrais entendre sa voix encore une fois. Ses parents avaient pris de multiples rendez-vous chez de nombreux spécialistes. Une semaine plus tard, sa mère m'avait demandé de l'accompagner. J'étais d'accord, mais en même temps, j'appréhendais le diagnostic du docteur et s'il nous disait qu'elle ne reparlerait plus jamais. Quand on sortit de chez le docteur, j'étais déçue car il ne savait absolument pas ce qu'elle avait. Sur la route du retour, je ne faisais qu'insulter ce médecin que je jugeais incompétent. 2 semaines plus tard, Dalel devenait de plus en plus renfermée. Les vacances étaient finies depuis 1 mois, notre amitié avait tenu le coup comme toujours, elle était solide comme de la pierre. À la fin des cours, je rendis visite à Dalel pour lui remonter le moral comme je pouvais, mais là, sans le vouloir, j'ai trébuché sur mon sac et d'un coup, Dalel explosa de rire. Une immense joie envahit tout mon être. C'était son premier rire depuis 3 mois.
Le 17 septembre 2012, il faut dire que tout est allé si vite. La veille, j'étais allé à l'hôpital, car j'avais des douleurs, comme un feu qui brûle mes hanches. Le médecin m'avait dit que c'était rien du tout, mais ce soir, je devais montrer les radios au docteur. Il a appelé et il a dit, s'il ne vient pas se faire opérer, il risque de ne plus marcher et de passer sa vie sur un fauteuil roulant. Je suis allé à l'hôpital le soir même. Il était 21h30. Ils m'ont mis dans une chambre, tout seul, comme un prisonnier dans sa cellule. J'ai bien aimé la chambre, car il y avait une télé, une salle de bain, un grand lit, adresse juste pour moi, comme une vraie chambre d'hôtel. Chambre super belle, mais je n'arrivais pas à dormir, car je pensais qu'à mon opération. Ce jour-là, c'était un lundi, le 17 septembre 2012. Je me suis levé très tôt. Je me trouvais à l'hôpital Nord, dans le bâtiment C, au service de chirurgie. Le docteur Morel parlait comme une mitraillette, m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ça allait bien se passer, mais moi j'étais stressé. La maladie c'était une épiphysiolède. J'ai d'abord pensé que c'était un mot anglais. Je ne saurais pas vous expliquer, mais que c'est grave. J'avais des nausées. Pour vomir, on m'avait mis des haricots juste sur ma droite. Au moment de mon entrée au bloc opératoire, mes parents m'ont quitté à 8h30. Le docteur m'a dit de penser à un souvenir qui va te faire endormir. J'ai pensé à mes vacances dernières, comme si j'étais encore en vacances. Il m'a mis le masque et je me suis endormi. Ils m'ont mis 2 vis, une dans la jambe droite et l'autre dans la jambe gauche. Je suis sorti du bloc opératoire, il était 16h30. Mon père et ma mère s'inquiétaient dans la chambre, car je ne me suis pas réveillé jusqu'à 20h50. La première question que m'ont posée mes parents, c'était « Est-ce que ça va ?» Je répondis « Oui » avec la tête, car je ne pouvais pas parler. Ma bouche était toute sèche, comme un zombie. Mon père était rentré pour s'occuper de mon frère et de ma sœur, qui était chez ma tante. Ma mère m'a dit, est-ce que je t'allume la télé? Je lui ai dit oui avec la tête. Je lui ai demandé de m'apporter un verre d'eau, car j'avais très soif, comme si je suis allé au désert. Je ne pouvais plus parler. Le midi, on m'apporta à manger, mais tout ce que je mangeais, je le vomissais. J'ai donc pris la décision de ne plus manger jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. C'était impossible car on me forçait pour prendre des forces. Le 21 septembre 2012, le jour de mon anniversaire, toutes les infirmières m'ont fait une surprise. Ils m'ont acheté un cadeau. J'étais heureux comme un ange. Avant ma sortie de l'hôpital, il fallait que je marche avec des béquilles. Le 25 septembre 2012, je sortais de l'hôpital en ambulance.
Quand j'étais petite, je manquais d'appétit. Je ne mangeais presque rien. Je me contentais uniquement de quelques galettes. Ça a duré de longues années. Ma famille s'inquiétait pour moi. Les médecins s'étonnaient. Même les médicaments ne faisaient pas effet. Ma mère me grondait à chaque fois qu'on se trouve à table. Les repas étaient devenus une torture. Ma mère a tout essayé pour que je puisse manger. J'étais maigre, comme une asperge. Mais je me sentais bien. Je ne me plaignais pas. Pour moi, c'était normal. Un jour, pour me faire plaisir, ma mère me cuisina de la rate farcie. Elle me dit « Tu dois la manger, sinon tu seras punie ». C'était la première fois que ma mère me menaçait. Cette fois, je n'échapperai pas. Ce jour-là fut le plus long de ma vie. Une fois servi, j'ai eu envie de vomir. Je tremblais. Je sentais les frissons parcourir mon corps. « Allez, ma petite fille, c'est pour toi, mange !» J'ai mis le premier morceau dans ma bouche et j'ai commencé à le mâcher. Mâcher. Mes yeux me brûlaient. Ma mère me dit, avale vite. Je ne pouvais pas la regarder. Je me suis contentée de jeter ça dans mon estomac une bonne fois pour toutes. Bravo, s'exclama maman.
Le voyage qui ne finit pas. Nous arrivions à Almeria pour prendre le bateau après une dizaine d'heures de voiture. Nous nous rendions au Maroc. Le bateau accostait à Tanger. Puis nous devions faire encore 260 km avant d'arriver à notre destination finale, Meknès. Pendant que mes parents réglaient les formalités, j'étais excité avant de monter à bord de ce bateau en face de nous. Ils me tendaient les bras. L'air méditerranéen était frais et agréable après la chaleur de la voiture. Des mouettes volaient au-dessus de nous en poussant leurs cris très aigus. Des voitures commençaient à embarquer sur le ferry, mais le policier qui s'occupait de nous était lent à mon goût. Mes parents commençaient à s'inquiéter, à craindre que pour notre embarquement. L'angoisse montait en moi. Le voyage allait peut-être nous échapper. Après 20 minutes de chaleur étouffante, enfin la délivrance. Le policier est revenu avec tous nos papiers et nous laissa embarquer dans ce ferry. Mon père alla se garer dans la soute du bateau. Enfin, nous étions sur ce bateau à la recherche d'une place pour nous asseoir. Le bateau allait enfin quitter le port d'Almeria en direction de Tanger, au Maroc. Il commença à avancer et moi, j'étais soulagé. Mais j'avais maintenant une chose en tête, c'était de sortir. Mon frère venait de revenir de dehors, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de vent et que la mer était tellement claire qu'on pouvait y observer les poissons nager. Je lui ai dit que j'allais sortir à mon tour, mais il m'en empêcha, car il pensait que j'allais me perdre. Le bateau était très grand. Alors je le suivis, mais j'eus un moment d'inattention et mon frère avait disparu. Je regardais à 260 degrés autour de moi, mais rien, j'étais perdu. Cela a duré quelques minutes. Enfin, je me rappelais de la chambre où mes parents et ma sœur étaient. C'était la chambre 260. Je demandai à un monsieur inconnu de m'aider. Il me montra où je devais aller. Enfin, la délivrance. Je retrouvai mes parents qui ne s'étaient rendus compte de rien. Et je leur expliquai que je m'étais perdu. Et puis mon frère revint. Il se fit crier dessus par mes parents. Après que je me sois remis de ce long périple, le bateau entrait dans le port de Tanger.
C'était un jour comme les autres. J'avais 9 ans. J'étais chez la copine de ma sœur, qui avait un fils de 6 ans, Akil. Akil était petit de taille, avec de grosses joues, des yeux couleur noisette et de longs cils. Akil et moi, on s'apprêtait à sortir au parc. Je mis mes chaussures à longs lacets. Akil s'impatientait, je suis donc descendue sans nouer mes lacets. Il était déjà en bas de l'escalier du dernier étage. Je suis descendue tel un guépard bondissant à la vue d'une proie. Sauf que cela ne s'est pas passé comme prévu. J'ai marché sur mon lacet. Tout s'est passé très vite, mais avec l'impression que c'était du ralenti. Je savais ce qui allait arriver au moment où j'atterrirais, donc j'ai essayé de mettre ma main devant ma bouche pour la protéger. Trop tard, je suis tombée la bouche la première sur le carrelage. Sur le carrelage, c'est comme si je m'étais écrasée comme une crêpe. Sur le coup, je n'ai rien senti. Ça s'était passé en quelques secondes, mais ça m'a paru une éternité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais perdu mes deux incisives, car j'ai passé ma langue le long de mes dents et j'avais un goût salé et chaud dans ma bouche. J'ai compris que je saignais. Akil s'est précipité pour aller appeler ma sœur et ma mère. Quand elles m'ont vu, elles étaient effrayées et en larmes. Elles m'ont ensuite emmenée aux urgences après m'avoir rincé la bouche. C'était la première fois que j'allais à l'hôpital.
Aujourd'hui, lorsque je raconte cette mésaventure, j'en ris. Mais au fond de moi, je regrette que ce soit arrivé. Bravo.
Alors, le texte s'appelle Un grand voyage et il est signé de Imen. Mon départ pour la France est source de nombreux souvenirs. Le jour où ma mère m'a annoncé notre départ, notre voyage, le premier pas dans notre nouvel appartement, mon premier jour d'école. Si je devais n'en compter qu'un, ce serait mon voyage. Le jour du départ, ma famille et moi, nous avons pris le bateau de l'Algérie jusqu'à l'Espagne, comme Ulysse lors de son épopée. Le bateau était grand, beau, bleu et blanc. Il se dressait sur la mer, prêt à nous emmener vers notre destin. C'était bien. Il faisait chaud, mais la climatisation nous berçait. Les mouettes criaient. Il y avait beaucoup de monde. Nous avons dormi dans le bateau. Nous avons partagé une cabine. La nuit fut joyeuse. Nous avons beaucoup ri et peu dormi. Le lendemain, nous avons passé la douane. C'était très long. Nous avions nos bagages, nous transpirions, c'était pénible. Nous avons pris le bus. Il s'arrêtait toutes les 3 heures pour que les passagers mangent et se reposent. Nous avons passé la nuit dans ce bus. Le temps ne défilait pas. Le voyage semblait interminable. Les rires de la veille étaient oubliés. Le 30 août, je suis arrivé en France. Quelques semaines plus tard, c'était la rentrée. Mais ça, c'est une autre histoire.
J'habitais à Rome, dans un quartier qui s'appelait Borghesiana. Ma passion pour le football a commencé quand j'étais très petit et je jouais au foot avec mon père et mes frères. En grandissant, je suis devenu l'ami des garçons et nous avons commencé à jouer au foot tous ensemble dans la rue. Ensuite, à l'âge de 10 ans, j'ai décidé de jouer dans une équipe et ma première équipe était la Borghesiana. Dans cette équipe, jouaient tous mes amis et ainsi je me suis habitué tout de suite. Un samedi, avec mon équipe, sommes allés jouer un match très important pour nous, contre le Milan. J'ai endossé le maillot avec mon numéro préféré, le 11. Avant le commencement de la partie, nous étions heureux de jouer contre une équipe très forte, mais au même moment, anxieux du résultat de la partie. Peu après le début de la partie, un copain de mon équipe et moi avons fait une belle action. Je lui ai fait un passe. Nous faisons un 1-2 et je lui ai lancé le ballon le long de la ligne. Il stoppe le ball et il me fait un passe au sol. J'ai marqué mon premier but de la saison et de la partie. Le résultat était 1-0. Après ce but, j'étais très content et j'étais très motivé pour faire un bon match. À la fin, j'ai pensé avoir fait un bon match et mes camarades aussi même, si le résultat n'était pas le meilleur. On avait fait un pari. Mais avec une équipe aussi forte, on ne pouvait faire mieux. Avant les vacances de Noël et la fin de la première partie du championnat, j'ai appris une nouvelle très triste. Nous devions partir, lasser l'Italie et tout recommencer en France. Le jour avant mon départ, nous sommes allés au restaurant et ils m'ont fait une surprise. En fait, le cadeau le plus beau que je pouvais recevoir. À peine arrivé en France, la première chose que j'ai fait a été de chercher une nouvelle équipe pour ne pas interrompre ma passion pour le foot. Après quelques jours, j'ai commencé à faire les entraînements et les matchs. J'espère de continuer à foot et ne pas renoncer à ma passion pour le football.
Mon souvenir. Je devais avoir 6 ans. J'habitais à Moreno, la Bâtie. Devant chez moi, il y avait un petit parc avec une balançoire et un tourniquet. Ce jour-là, il faisait chaud, c'était l'été, et j'étais en vacances. Mon frère avait un vélo rouge, et le mien commençait à être trop petit pour moi. Mes frères étaient allés chez leurs copains qui habitaient dans le quartier, et moi j'avais préféré rester jouer devant la maison. D'abord, j'ai fait du tourniquet, j'aimais bien, mais comme j'étais seule, je me suis vite lassée et je suis partie. Avec le vélo de mon frère, je suis allée au parc où les balançoires étaient cassées. Il y avait une corde qui pendait tout sur un poteau, telle une liane abandonnée dans la jungle. Alors que je faisais du vélo, j'ai foncé tel un lion qui attrape sa proie tout droit sur la corde. J'ai voulu baisser la tête pour passer en dessous. Trop tard, elle m'a frappé la gorge et je suis tombé en arrière comme un fou. Une terrible douleur. J'ai eu tellement mal que j'ai laissé le vélo sur place et j'ai couru chez moi. Quand ma mère m'a vu, elle a pris peur et m'a demandé plusieurs fois ce que j'avais. Je lui ai raconté et j'ai été me voir dans la glace. J'ai vu ma gorge avec une grande trace rouge, on aurait dit un film d'horreur. J'avais comme une grande griffure autour de mon cou. J'ai pris peur.
J'étais à Saint-Paul depuis la 6e. Ma mère m'a changé de collège 2 mois avant la fin d'année scolaire 2013. Elle m'a mise à Marseguin. Mes premières impressions ont été que ça allait être nul, que tout allait changer. Mes amis, mes professeurs. Je ne connaissais personne. Mon premier jour à Marseguin, je commençais à 1h. J'étais dans la cour, toute seule, je me sentais perdue. Je me demandais ce que je devais faire. Tout à coup, la sonnerie. Je montais dans ma salle de classe en me demandant qui allait être dans ma classe. Je me suis fait ma première amie en cours de français. C'était Inès. Je me suis mise à côté d'elle. On s'est tout de suite bien entendu. Après, on en va anglais avec Monsieur Arnaud. J'ai toujours bien aimé l'anglais. Je trouve que cette langue est utile. J'ai bien aimé les professeurs d'anglais et de français. Monsieur Maillot était mon professeur de français. Je me suis dit qu'au final, c'était pas la fin du monde de changer de collège. En rentrant chez moi, j'ai tout de suite appelé Camélia, ma copine de Saint-Paul, pour lui raconter ma première journée dans mon nouveau collège.
Je jouais avec des amis en primaire à toutes les récréations. On demandait le ballon au professeur et nous courions sur le terrain pour profiter de plus de temps. Nous choisissions des équipes en jouant à pierre, feuille, ciseaux. Ce souvenir m'a marqué car j'aimais mes camarades de CM1 dont je revois très peu. Pendant le week-end et les vacances, nous jouions aussi au football, mais on se donnait rendez-vous dans une cour dans les hauteurs de Moreno. La passion du football coulait dans nos veines. Parfois, des personnes âgées, fatiguées par notre bruit, nous disaient en criant, comme des chiens, d'arrêter d'aller jouer ailleurs. Mais on s'arrêtait un moment et on recommença. C'était plus fort que nous. Mais une catastrophe arriva. Un jour, j'eus l'appendicite. Ce jour-là, j'étais allé à l'école comme d'habitude, mais pendant l'accompagnement éducatif, une camarade emmena beaucoup de sucreries, j'en avais beaucoup mangé. Quand je rentrais chez moi, j'eus un mal de ventre insoutenable. J'allais vomir sans arrêt jusqu'à faire une nuit blanche. Le lendemain matin, ma mère m'emmena chez le médecin et me dit immédiatement d'aller à l'hôpital. Nous sommes allés à la clinique du parc. On me lava, on me mit une blouse et je me mis au lit. On devait m'opérer le lendemain, mais après mon arrivée, on devait m'opérer le lendemain après mon arrivée à l'hôpital, mais on dut m'opérer le jour même. Lors de mon opération, on m'emmena au bloc opératoire, j'attendis un moment et on m'opéra. 3 longues heures de sommeil plus tard, on me réveilla avec une lampe qui m'éblouit tel le soleil. On me monta à ma chambre et des personnes de ma famille vinrent me voir. Ma mère me donnait un cadeau, mon oncle me donnait de l'argent, mais la nourriture n'était parfois infecte à mon goût. Je fus content de rentrer chez moi, une infirmière venait me changer mes pansements chaque jour. En dessous, j'avais des fils qui m'ont laissé 3 cicatrices sur le ventre. Le jour où on m'enleva les fils fut douloureux et j'ai souffert le martyr. Lorsque je suis retourné à l'école, je fus dispensé 3 semaines de sport. Alors, pendant les récréations, je restais seul dans mon coin.
Alors, c'est mon souvenir écrit par Saïf. Je devais avoir 10 ans, j'étais en 6e. Je jouais au foot avec mon copain Sadek dans le quartier. On se faisait des passes. On n'avait pas cours, il faisait froid, c'était un jour de semaine du mois de janvier. D'habitude, il y avait plus de monde, mais là, nous n'étions que 2. Sadek m'a envoyé le ballon, j'ai frappé dans la cage. Je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai foncé comme un bolide, j'ai tapé ma tête contre le poteau. J'ai cru que j'avais juste une bosse, mais Sadek m'a dit « Tu saignes ?» J'ai mis la main sur ma tête, j'ai vu qu'elle était pleine de sang. J'étais surpris de voir autant de sang. Ça coulait comme une fontaine. Sadek est parti chez moi pour chercher mon frère, mais ça ne répondait pas. Il est revenu tout seul. Je l'ai envoyé chercher mon frère ailleurs. Il l'a trouvé et on est rentré chez moi pour appeler les pompiers. En moins de 5 minutes, ils étaient là. Ils étaient 4 dans le camion. J'étais assis sur une chaise et des pompiers me posaient plein de questions. L'un d'eux m'a dit que j'avais un traumatisme crânien. À ce moment-là, j'ai eu peur. Je pensais que c'était grave, mais le pompier m'a rassuré. On est allé à l'hôpital Nord, aux urgences. Ce n'était pas la première fois que j'étais amené par les pompiers. Je suis un habitué. La fois d'avant, je m'étais cassé le pouce. Cette fois-ci, j'ai plutôt bien aimé le trajet. Les pompiers étaient gentils, on a rigolé. Mon frère, qui nous avait suivis en voiture, était là. On m'a anesthésié avec un masque et puis on m'a fait 8 points de suture en haut du front. Mais je n'ai rien senti. Les infirmiers étaient étonnés car je n'avais pas du tout mal. À ma grande surprise, l'anesthésie a bien fonctionné.
Portrait. Je m'appelle Soumia Kamel, je suis née le 4 août 1999 à Alès, qui se situe dans le Gard. Je suis d'origine algérienne et kabyle. J'habite à Moreno, à Saint-Étienne. J'ai les yeux marrons, j'ai les cheveux marron clair qui m'arrivent en bas des épaules. Il paraît que je suis petite de taille. Je suis l'aînée de ma famille. On me reconnaît grâce à mon caractère. Je suis franche, je dis tout ce qui ne va pas et je ne passe pas par 4 chemins même si je suis plutôt timide avec ceux que je ne connais pas. Je m'énerve vite quand on cherche la petite bête. Je suis en 3e au collège Marc Seguin. J'aime l'été car il y a le soleil. On peut aller à la plage, à la piscine. et il fait chaud. J'aime sortir avec mes amis, rigoler avec eux, faire des blagues, les taquiner. J'aime regarder la télé, écouter la musique, un peu lire s'il y a de l'action. Je n'aime pas le ménage, mais je suis obligée d'en faire. Et je déteste faire du sport. J'aime dormir tard, traîner dans le lit et manger plein de kebabs et des bonbons. J'aime surtout pas la neige, car j'ai horreur du froid. En plus, quand il neige, on est glacé comme quand on met notre main dans le congélateur. J'ai vraiment peur des chats, car étant petite, je me suis fait griffer la main depuis je ne les aime pas. C'est pareil pour les chiens, car je me suis fait courser par un chien. Depuis, j'ai peur qu'ils soient petits ou grands. Je n'aime pas les gens hypocrites, car beaucoup trop de gens m'ont déçu. Ils parlent derrière une personne, après, ils vont vers elle, comme si de rien n'était. Et je n'aime pas les moulins à parole, c'est-à-dire les gens qui parlent beaucoup trop. Ceci dit, je n'aime pas non plus les silencieux. Si j'étais une couleur, je serais le jaune. Si j'étais un animal, je serais un papillon. Si j'étais une odeur, je serais Dior Addict.
Un mauvais souvenir par Sarah. C'était un jour comme les autres. J'avais 9 ans. J'étais chez la copine de ma sœur qui avait un fils de 6 ans, Akil. Akil était de petite taille, avec des grosses joues, des yeux couleur noisette et de longs cils. Akil et moi, on s'apprêtait à sortir au parc. Je mis mes chaussures à longs lacets. Akil s'impatientait. Je suis donc descendu sans nouer les lacets. Il était déjà en bas de l'escalier du premier étage. Je suis descendu, tel un guépard bondissant à la vue d'une proie. Sauf que cela ne s'est pas passé comme prévu. J'ai marché sur mon lacet. Tout s'est passé très vite, mais avec l'impression que c'était au ralenti. Je savais ce qui allait arriver au moment où j'atterrirais. Donc j'ai essayé de mettre ma main devant ma bouche pour la protéger. Trop tard. Je suis tombé la bouche la première sur le carrelage. C'était comme si je m'étais écrasé comme une crêpe. Sur le coup, je n'ai rien senti. Ça s'était passé en quelques secondes, mais ça m'a paru une éternité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais perdu mes deux incisives, car j'ai passé ma langue le long de mes dents et j'avais un goût salé et chaud dans la bouche. J'ai compris que je saignais. Akil s'est précipité pour aller appeler ma sœur et ma mère. Quand elles m'ont vu, elles étaient effrayées et en larmes. Elles m'ont ensuite amené aux urgences après m'avoir rincé la bouche. C'était la première fois que j'allais à l'hôpital. Aujourd'hui, lorsque je raconte cette mésaventure, j'en ris. Mais au fond de moi, je regrette que ce soit arrivé. Voilà. C'était pendant les vacances d'été 2013. Ma famille et moi, nous étions partis au Maroc, à El Khamis, dans le village berbère de mes parents. Ce jour-là, j'avais demandé à ma mère de me laisser dormir chez ma cousine Meriem, qui a 2 ans de plus que moi. Ma mère a accepté. On a mis du temps à aller chez elle. Il fallait marcher plusieurs kilomètres. Une fois arrivés là-bas, ma sœur Fatima et moi avons croisé leurs voisins. Ils étaient sympathiques. La maison de Meriem était magnifique. Il y avait 2 grandes cours avec des orangers, tels des jardins royaux. Il y avait aussi un grand toit. Toute la maison était en terre. Khadija, la grande sœur de Meriem, était là avec leur plus petite sœur, Ajar. Ma sœur passait son temps à martyriser la vache de la maison. À un moment, je me suis souvenu d'une phrase de mon père que mon père dit à chaque fois que je vais loin de lui. « Pas de bêtises !» Et ça m'a tenté. Je voulais qu'on s'amuse un peu. Et donc, quelques minutes avant le coucher du soleil, alors que Ajar dormait, j'ai demandé à Khadija, en berbère, si nous pouvions monter sur le toit. Elle m'a répondu « Oui, mais juste si tu arrives à redescendre. » « Ne t'en fais pas, » dis-je. « Ce sera simple, j'arrive à tout !» ajouta Fatima. Enfin, nous sommes montés sur le toit, Fatima, Khadija, Meriem et moi, avec une échelle. Je regardais le paysage. Il était fabuleux. Toutes les maisons avaient l'air proche. Je voyais un berger qui rentrait ses moutons comme une longue file de flocons avançant à l'horizon. La plus belle vision était celle du soleil au loin se couchant lentement. Quand le soleil fit place à la lune, je descendis du toit par l'échelle. En me retournant, je vis le toit. Fatima et Khadija. « Mais c'est pas vrai, » fis-je. « Descends, Moby Dick. »« Mais j'y arrive pas, » dit Fatima. « Tu avais dit que c'était simple. » J'ai pas fait exprès de dire ça. Je n'étais pas en colère, mais hilar. Khadija avait une expression qui disait « Je vais me faire tuer par vos parents. » Au bout d'un moment, il faisait noir et Fatima n'étaient pas descendues. Myriam avait une idée, prendre une corde pour l'attacher à Fatima pour qu'elle puisse enfin descendre comme si elle descendait d'une montagne. Alors Myriam et moi, nous sommes partis chez les voisins et nous leur avons demandé une corde. « Pourquoi vous voulez une corde ?» demanda la mère de maison tout en prenant une corde du puits. « Pour attacher Nabila, » dit Myriam, « la mettre en haut du toit et la pousser pour la tuer. » La femme rit. Mais j'avais l'impression qu'elle avait des doutes. Avec la corde, nous courûmes à la maison et la surprise me frappa. Fatima était déjà redescendue. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé à Khadija, elle m'a répondu « J'ai dit à Fatima que si elle descendait, elle aurait des bonbons. » Et Khadija sortit de la maison pour acheter des bonbons. Après cette merveilleuse aventure, nous nous sommes endormis. Le lendemain, très tôt le matin, j'ouvris un œil et vis ma mère et ma tante qui parlaient à Khadija. Si ma mère était venue ici, c'est qu'elle ne me faisait absolument pas confiance. Dans leur conversation, j'entendis des mots comme « échelle », « corde », « toi », « Fatima ». Et ma mère riait. Elle n'était pas en colère, ce qui était bon signe. Mais quelques minutes plus tard, ma mère et ma tante partirent. À midi, j'appelai mon père pour qu'il ne s'inquiète pas. À ce qu'il me dit, il connaissait déjà toute l'histoire. Lui non plus n'était pas en colère. Je l'entendais à sa voix, qui était plutôt heureuse.